Maintenant, je voulais voir un petit peu cette idée de Balthazar, verset 30, pour nous situer historiquement. Balthazar, c'est celui qui avait fait une grande fête où ils avaient pris les ustensiles qui étaient ramenés du temple, hein, et ils se servaient de ça devant tout le monde. C'était une fête de débauche, et il a vu de l'écriture sur le mur. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et là, Daniel lui a dit qu'est-ce que ça voulait dire, et que c'était donc qu'il va perdre son royaume. Et c'est dans cette nuit-là qu'il est tué. Et il y a un dicton très bien connu en anglais qui dit « Je vois l'écriture sur le mur ». Ça veut dire « Je vois venir hein ». Et très peu de personnes savent l'origine de ça, mais ça vient de Daniel, chapitre 5. Ouais. Maintenant, prenons le récit en chapitre 7, maintenant, et c'est marqué la première année de Balthazar. De Belshazzar, qui veut dire que chapitre 7, c'est quelque chose qui s'est passé avant chapitre 5. Hein? C'est logique, là. Hein? Parce que Daniel a coupé, c'est dans un sens deux récits, si vous voulez. Le récit historique et le récit prophétique, si vous voulez, ou... apocalyptique. Maintenant, Daniel, son but et son travail n'était pas tellement de prophétiser au peuple d'Israël. Il n'est même pas inclus dans les parties des prophètes. Il est inclus séparé dans le canon hébraïque. C'est exact, ça? Oui. Comme ça, il est considéré à part parce qu'il n'est pas un prophète à Israël. Maintenant, plus tard, pendant le temps des Médo-Perses, pendant le temps, peut-être encore plus tard que ça, pendant les Grecs, les Maccabées, tout ça, on lisait Daniel, parce que là, on comprenait, et on voyait dérouler devant nous l'histoire qui se passait. Moi, je suis mieux de me dépêcher, là. Bon, première année de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait le songe et racontait les principales choses. Daniel commençait et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous retournez à Isaïe, chapitre 17, verset 12 et suivant, et qui parle de l'idée de les nations sont comme la mer turbulent et tout ça. Et c'est l'idée ici de les nations, des peuples du monde. Et les quatre vents, c'est ici qui bouge cette mer. Hein. Et quatre animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, on a quatre animaux. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Une statue en quatre parties. Maintenant, quatre animaux, sans explication. Si je lis le récit, première réaction, c'est, voilà, c'est la même chose. Le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Il regardait jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre, était semblable à un léopard, il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau, cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Maintenant, je vais arrêter là, pour pas aller trop dans la description du quatrième, mais on va regarder ici, verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront leur royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est très simple. C'est exactement la même chose que chapitre 2. Vous avez quoi? Vous avez quatre royaumes et vous avez les saints Très-Haut qui viennent et qui prennent un royaume éternel pendant le temps du quatrième. Maintenant, je voulais savoir les interprétations du quatrième animal. Ça, c'est assez important, mais on ne va pas aller dedans tout de suite. Regardons encore la description de ces animaux, voir si ça accorde assez bien avec ces empires que nous parlions. Hein, le premier était semblable à un lion. Le lion, c'est quoi? Hein? Comment on appelle le lion? Oui, c'est ça, le roi des animaux. Hein? Et il est vu pour sa noblesse, pour sa force, bien sûr. Hein? Un lion rougissant, c'est l'idée de force, de grandeur, d'importance. Ça s'accorde avec une tête d'or. Hein? Bon, il avait des ailes d'aigle. C'est l'idée de vitesse et de noblesse, mais souvent dans la Bible, quand on voit des ailes, c'est l'idée de vitesse. Mais on lui fut arraché et fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Je ne suis pas sûr, hein, mais je crois que ça parle de l'idée ici de quand Nebuchadnezzar a été humilié, quand il se croyait le plus grand de toute la terre, et qu'il avait vaincu tout ce qu'il y avait devant lui. Et là, Dieu lui a fait devenir finalement fou. Hein, et il a parti, il a mangé de l'herbe pendant, 4 saisons, ou 7 saisons, je ne me souviens pas le récit exactement ce qu'il dit, et jusqu'au moment qu'il a pu reconnaître que Dieu était le roi des rois. Et je crois que c'est l'idée-là qu'on lui a remis un cœur d'homme, hein, qu'il a réalisé que vraiment c'était une... Maintenant, je ne suis pas sûr si c'est ça ou non, mais ça me semble être la plus logique. C'est un animal semblable à un ours. L'ours est moins puissant que le lion, mais en même temps, c'est un destructeur dans la situation. Il était sur un côté. Si cela a allusion de l'idée des deux côtés de Médo-Perse, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Parce que l'Empire Médo-Perse, c'était Médo-Perse, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses, il y avait ici l'idée de deux côtés. Si, je ne suis pas sûr, hein, ça c'est... Hein? Il avait des dents et mange beaucoup de chair, et il avait ici trois côtes. Je ne vois aucun symbolisme de ça, sauf qu'il était là et il avait une certaine force et une puissance. Ici, que lui fut donné. Mais là, il avait un autre, semblable à un léopard. Quand vous pensez à un léopard, qu'est-ce que vous pensez? Vite, vitesse. Hein? Comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment vite. Et il a eu sur le dos quatre ailes, comme un oiseau. Ben, c'est encore plus vite. Hein? Imaginez un léopard qui a des ailes. Un léopard qui a des ailes, vraiment, il bouge vite. À quoi pensez-vous que cela a allusion? Hein? Le quatrième royaume, c'était les Grecs. Et quand vous pensez aux Grecs, qui était le roi par excellence des Grecs? Alexandre le Grand. À quel âge avait-il, quand il avait pu avoir fini de conquérir tout le monde, tout le monde. 30 ans? À l'âge de 30 ans, il était le roi de toute la terre. À quel âge il est mort? Hein? Je crois 30 ans. Ça ne lui a pas servi à grand chose. mais en même temps, il était vite. Est-ce que ça suit la description de Léopard? Pour moi, il n'y a aucun problème. Hein? Maintenant, cet animal avait quatre têtes. Deux possibilités d'interprétation, je ne suis pas sûr. Quatre têtes, c'est plutôt la possibilité de quatre directions. Et c'est l'interprétation qui vient le plus souvent pour un animal qui a quatre têtes, c'est-à-dire la possibilité d'aller dans les quatre directions, quatre coins du monde. Hein. C'est-à-dire qu'il a vaincu partout, il est allé partout très vite. L'autre possibilité, et c'est celui que je crois, que je me penche le moins vers, c'est que c'est peut-être ces quatre généraux qui l'ont suivi. Mais je ne crois pas qu'elle est dans le récit, oui. Après lui, quand il est mort, son royaume était divisé en quatre. Mais je ne crois pas que c'est ça qu'il a comme allusion. C'est une possibilité d'interprétation. Ah, c'est les deux possibilités. Mais je ne crois pas qu'il envisage ça dans ce récit. C'est possible. C'est ce que je croyais avant. Comme ça, peut-être dans 6 mois, je changeais encore d'idée. Parce que un ou l'autre, c'est pas grande différence. Hein. Maintenant, le quatrième animal, terrible, épouvantable. L'autre, qu'est-ce qu'il était? Fort comme le fer. Quelle est la qualité du fer? C'est fort, c'est dur. Mais est-ce que c'est un métal précieux? Non.
Non.
Et je crois qu'il y avait quelque chose de précieux dans l'Empire babylonien, quelque chose de précieux dans l'Empire médo-perse, quelque chose de précieux dans l'Empire grec, parce qu'il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de l'airain, mais finalement l'Empire romain c'est que du fer. Et quand vous pensez à l'Empire romain, finalement elle est connue pour une chose, sa force militaire. Culturellement, elle a contribué presque rien. Parce que sa culture était essentiellement la culture grecque. Bon, elle a changé un petit peu les formes de colonnes, petites choses comme ça, mais finalement, l'architecture grecque et l'architecture romaine sont très proches. Ils ont repris, et ils ont même pris tous les dieux des Grecs, ils ont donné des noms romains. Il n'y a pas vraiment une contribution, mais quand vous pensez aux Grecs, oui, les philosophes grecs, les penseurs grecs, mais les Romains, non. C'est plutôt militaire. Et c'est tout. Et ici, c'est une description du quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, foulait aux pieds tout ce qui résistait. Il était différent que tous les autres animaux et il avait 10 cornes. Maintenant, qu'est-ce qu'est une corne pour l'animal ? La force. C'est ça. Tu as déjà écouté ça, peut-être. Ouais, c'est ça. L'animal, vous avez une corne, c'est sa force, sa puissance. Et dans les récits ici, les cornes symbolisent les rois. Vous pouvez lire le récit un peu plus tard, et vous allez voir, verset 24, de chapitre 7, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et là, c'est assez important, si vous voulez comprendre clairement le récit de l'Apocalypse, quand il parle de la bête avec 7 cornes. Parce que la bête de 7 cornes, c'est la bête de 10 cornes moins 3 cornes. Bon, c'est pas pour vous donner une leçon de maths, ça semble bizarre, mais dans le récit ici, il parle de l'idée qu'il y a 10 cornes, et que dans ces 10 cornes, il y en a 3 qui se sont disparus. Regardez verset 24, un autre s'élèverait après eux, ça fait le 11e, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Comme ça, vous abaissez 3 rois, de 10, il vous en reste quoi, combien? 7. Et vous avez un 11e, le 11e devient quoi? Le 8e, hein, c'est très simple, vous allez dans l'Apocalypse, vous trouvez ces 10 rois, vous trouvez ces... Mais dans l'Apocalypse, il les traite comme 8, comme 7, avec un 8e qui revient. Et là, vous regardez les rois, à l'époque de Jésus, les empereurs, et vous pouvez voir les 10 empereurs, et c'est pour dater précisément une persécution qui vient sur l'Église pendant le temps de Domitien. Et on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Bon. J'ai pris 50 minutes pour vouloir établir ici quelque chose d'assez important. C'est que la Bible nous parle ici, dans ces images, de quatre royaumes. Et au temps du quatrième royaume, le royaume de Dieu va être établi. Le quatrième royaume a une pluralité de lois, il y a beaucoup de ça. On peut aller dans le récit, vous pouvez voir encore, ça revient encore, la même image dans verset chapitre 8, mais dans chapitre 8, c'est une description du troisième royaume. Chapitre 7, c'est une description du quatrième, parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui va se passer à l'établissement du royaume de Dieu. Pendant le huitième, il y a une description du troisième royaume, parce que ça c'est nécessaire pour les gens à l'époque des Maccabées, dans ces temps-là, pour savoir qu'ils vont être vainqueurs. Si vous voulez, chapitre 8, c'est l'apocalypse des Juifs de cette époque. C'est pour leur montrer qu'ils sont plus que vainqueurs, malgré toute cette persécution qui vient par Antioche Épiphane, et il le nomme ici, pas en nom, mais il situe exactement cette idée de cette profanation et tout ça. C'est pour ça que en Matthieu chapitre 24, quand il dit, quand vous voyez l'abomination de désolation, souvenez-vous qu'est-ce que Daniel a dit. Et pour nous, on ne sait même pas ce que Daniel a dit, comme ça on donne des interprétations à Matthieu 24 qui sont complètement hors de raison, et qui ne s'accordent pas. Mais c'est à l'époque du quatrième royaume, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Bon, allons en vitesse quelques passages dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, verset 2. Commencez par le chapitre 3, verset 1. En ce temps parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux va arriver dans 2000 ans. Donc, excusez-moi, j'ai mal dit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce qu'il est en train de dire. Le royaume des cieux est proche. C'est la prédication de Jean-Baptiste. C'est Daniel l'a situé dans l'époque romaine. Et là, Jean-Baptiste donne des précisions encore plus claires. Et il est proche. Ce n'est pas juste situé pendant l'Empire romain, mais c'est presque maintenant. C'est proche. Luc chapitre 1. Maintenant, j'ai commencé par Jean-Baptiste parce que c'est lui qui est venu avant le Christ, mais je vais parler du Christ maintenant, mais avant que Jean-Baptiste a dit ça, c'est-à-dire pendant l'enfance du Christ. Chapitre 1, commençant par verset 31. C'est l'ange, ici, ange Gabriel, qui est en train de parler à Marie. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » C'est clair. En noir et blanc, c'est à lui qu'on donne le trône de David. De David, son père. Il règnera. Quand on règne, on a un royaume. Sur la maison de Jacob, éternellement, le royaume éternel. Et son règne n'aura point de fin. Voilà ce qu'on dit à Marie. Et un peu plus tard, Jean-Baptiste qui commence à prêcher dit, le royaume est proche. Matthieu 10, verset 7. « Maintenant, verset 1 de chapitre 10, il appelle les douze, il leur donne la puissance de chasser les esprits impurs, de guérir toute malade, de tout infirme. Et il dit, verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ici, le royaume des cieux est proche. Comme ça, le message des douze, c'est quoi? Le royaume des cieux est proche. Matthieu 16, 18, oui, on l'a déjà dit d'avance, hein? On le connaît celui-là. Matthieu 16, commençant par le verset 18, ici la confession de Pierre sur le Christ, non pas la confession du Christ sur Pierre, l'important c'est ce que Pierre dit sur le Christ. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Maintenant on a un mot différent, on a le mot église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et je te donnerai les clés du royaume. Hein? Voilà, l'église. Hein? Sur cette pierre, je bâtirai l'église. Je te donnerai les clés du royaume. Qui va ouvrir les portes du royaume? C'est lui qui a les clés. Et c'est Pierre qui a les clés. Il est le portier du royaume. Et c'est lui qui va ouvrir la porte et laisser les gens rentrer dans le royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, l'idée du royaume qui va être établi. Et il y aura ici une puissance qui sera donnée à Pierre, et qui sera la puissance, bien sûr, sous l'autorité du Christ. Sous l'autorité de Dieu. Pierre n'a pas la possibilité d'avoir une action indépendante de Dieu. Il serait dans la même catégorie que Moïse et les autres prophètes. Dieu a dit, c'est lié sur la terre. Maintenant, notre passage, Jean chapitre 3. C'est le passage où on parle d'être né de nouveau, mais né de nouveau. C'est intéressant. C'est né de nouveau. On parle souvent dans les églises évangéliques qu'il faut être né de nouveau, mais on dit pourquoi il faut être né de nouveau? Pour rentrer dans le royaume. Ils disent aux gens, mais il faut être né de nouveau, maintenant. Hey, êtes-vous né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Et là, ils disent, mais vous n'êtes pas dans le royaume parce qu'il n'est pas encore venu. Ben, vous prenez le texte ou vous le prenez part. Et ici, je suis en Luc. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Ah, mais c'est juste pour voir. Plus tard. Ah non, c'est pas ce que le texte dit, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, hein, à toi personnellement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ici l'idée de rentrer dans le royaume de Dieu. Bon, Marc 9, verset 1. Maintenant, ce passage va situer le royaume historiquement. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Vous avez deux choix. Sauf que le royaume est venu dans de la génération qu'il a prêché, ou qu'il y a des gens qui sont encore vivants depuis ce temps-là, et qui vont vivre jusqu'au temps que le royaume est établi. Et, ouais. J'ai même entendu quelqu'un un jour dire qu'il y avait un groupe qui croyait que Jean n'était pas encore mort. C'est vraiment pousser les interprétations au loin. Mais il a dit qu'il y en a ici qui ne vont pas voir la mort, qui ne vont pas goûter la mort avant que le royaume vienne avec puissance. Le royaume vient pendant la vie de ceux qui écoutent ici cette prédication. Maintenant, Jean 18, 36. Verset 33, ici, il y a une discussion ici sur l'idée entre Pilate et Jésus. Pilate rentrait dans le prétoire, appelait Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Ça veut dire, « Es-tu celui qui règne sur le trône de David ?» C'est ça. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te... l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit, moi, je suis, moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Et là, il est roi des juifs. Oui, mais regardez, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Noir et blanc. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume terrestre. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs ont combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui répond, qu'est-ce que la vérité? Mais l'affirmation est très claire, tu le dis, oui, je suis le roi des Juifs, mais mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas. Et il ne va pas revenir sur terre pour le faire ici-bas, car son royaume n'est pas de ce monde. Un passage clé, très important. Luc 17, 21. Verset 20, on va commencer. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Pourtant, si vous voyez la description qu'on donne de l'établissement du royaume, dans certains récits, c'est contradictoire. Hein? On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est comme ça le royaume. C'est quelque chose au milieu de vous. Ça ne vient pas pour frapper le regard. Ce n'est pas quelque chose où un roi va rentrer. Non, le royaume est au milieu de vous. Dernier passage, Colossiens chapitre 1, verset 13. Verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bon, c'est quelque chose de spirituel, très clair. Et là, il dit, qui nous a délivrés de la puissance des